jusqu'après la saison 2021-2022. Et au football de la NFL, ce soir, le match du lundi oppose les Browns de Cleveland aux Jets à New York.
Parlons maintenant jeux vidéo et histoire, parce que, croyez-le ou non, notre prochain invité a fait découvrir l'histoire par les jeux vidéo. Et pour en discuter, on va aller le rejoindre. Il s'agit d'un étudiant à la maîtrise en histoire, François Lafond. Bonjour.
Bonjour, M. Duhaine.
Donc, écoutez, expliquez-moi ça. Comment on peut intéresser les jeunes à l'histoire par des plateformes de gamers? Comment ça marche, cette affaire-là? Puis comment est venue l'idée même de faire ça?
Ben, c'est sûr que moi, en partant, je suis déjà un joueur de jeux vidéo, je vous dirais, depuis l'enfance, avant même que mon intérêt pour l'histoire se soit développé. Donc, déjà, j'étais dans le milieu, justement, des gamers et un milieu, on va dire, peut-être un peu plus jeune. Puis avec le temps, ben, mon intérêt pour les jeux est resté avec le temps, puis mon intérêt pour l'histoire s'est développé. Puis c'est en expérimentant, je vous dirais, avec la plateforme. Je m'étais essayé à diffuser, moi aussi, des parties de jeux vidéo. Mais c'est ça, avec le temps, ben, avec ma sélection de jeux qui évoluait et tout ça, ben là, je suis tombé sur des jeux à caractère historique. Et en jouant à ces jeux-là, l'animation que je faisais en direct de mes vidéos finalement sur Twitch changeait du tac au tac. Donc avant, je jouais à des jeux qui n'avaient pas un caractère vraiment historique. Et là, en jouant à des jeux qui ont qui se déroulent vraiment dans un contexte historique précis, forcément mon style d'animation changeait. Je mettais en lumière vraiment tous les éléments historiques que je voyais à l'écran devant moi. Puis ça me forçait un peu, ça m'amenait un peu à donner comme des mini cours d'histoire, des mini capsules au fur et à mesure que je progressais dans le jeu, que j'avançais là finalement.
OK, là Twitch, là, pour ceux qui savent pas de quoi on parle, là, pouvez-vous m'expliquer ça?
Oui, Twitch, en gros, c'est une plateforme qui est pas mal comparable, je vous dirais, à YouTube. Donc, sur YouTube, on va suivre des diffuseurs, justement, des gens qui se sont créés des comptes et qui vont aller créer du contenu sur le web. Et par contre, la différence avec YouTube, c'est que YouTube, c'est vraiment des vidéos en différé. Donc, c'est des gens qui vont avoir fait du montage de vidéos, qui vont l'avoir téléversé sur la plateforme. Alors que Twitch, à la différence, c'est vraiment des vidéos en direct. C'est un peu, imaginez-vous, comme une web télé. C'est comme si on mélangeait les éléments de YouTube avec la fonctionnalité des lives de Facebook, par exemple. Okay. Mais en beaucoup plus développé, avec plus de fonctionnalités, finalement.
Est-ce qu'il y a des... concrètement, là, expliquez-moi comment ça peut fonctionner. Là. Tu joues, comment, c'est quoi le but du jeu? Comment ça peut marcher? Ça va être quoi la question? Juste, je veux un exemple concret, très, très terre-à-terre. Là.
Parfait. Pour vous donner un exemple, en fait, le jeu qui a vraiment démarré ma chaîne, c'est le jeu Kingdom Come Deliverance. C'est un jeu qui se déroule en République tchèque en 1403. Donc, un jeu qui est vraiment très chargé d'histoire, très bien documenté, développé par une petite compagnie indépendante où ils ont vraiment fait appel à des historiens, à des archéologues, à des maîtres d'armes aussi pour reproduire les combats qui se déroulent dans le jeu. C'est un jeu d'aventure à monde ouvert, donc où on incarne un personnage finalement qui va se développer dans un scénario, dans un environnement très précis. Et à un moment donné, je me rappelle très bien, il y avait une quête où le personnage suit un seigneur qui s'en va prendre un bain. Finalement, c'est ça, un bain public avec des serviteurs et tout. Et finalement, ben là, les gens dans le chat se mettaient à commenter la scène en disant « Ah oui, les gens à l'époque au Moyen-Âge, ça l'avait pas beaucoup. Probablement que les bains étaient réservés juste aux personnes aisées de la société à l'époque. » Et moi, avec mon regard d'historien, je savais qu'en fait, c'était pas tout à fait vrai, que les gens à l'époque se nettoyaient beaucoup, qu'il y avait encore la tradition des bains publics qui étaient issus de l'Antiquité et qu'il y avait encore aussi les vestiges de ces bains publics-là qu'on utilisait encore à travers le Moyen-Âge. Et là, tout ce que je viens de vous dire là comme information, j'ai été capable de le dire en même temps que j'avançais dans le jeu et en même temps que je progressais devant les spectateurs. Donc, on leur apprenait un morceau d'histoire, mais tout en jouant finalement.
OK. Fait que là, le monde savait que finalement, le monde se lavait à cette époque-là. Et si on est capable de faire des jeux qui ont du contenu historique, est-ce qu'il y a d'autres matières qu'on pourrait intégrer dans les jeux vidéo?
Il y aurait d'autres matières, effectivement. Si je pense, par exemple, là, je m'en vais carrément dehors de l'histoire en disant ça, mais par exemple, il y aurait des jeux de science-fiction, des jeux qui se déroulent peut-être dans une époque un peu post-apocalyptique, où on pourrait intégrer peut-être des notions de science, des notions de biologie aussi au travers. Bien sûr, ça va être dans un cadre fictif, mais il y aurait moyen, selon moi, là, d'intégrer des éléments réels aussi à travers ça.
OK. Puis, y a-tu des erreurs historiques dans ces jeux-là? Est-ce que vous avez vu des erreurs là que vraiment, ça se peut-tu que ceux qui ont mis le jeu sur pied aient fait des erreurs?
Je vous dirais que c'est pas impossible puisque l'erreur est humaine. Mais par contre, ce qui est intéressant avec ce jeu-là, c'est de relever justement qu'est-ce qui relève surtout de la fiction et de la réalité historique. Parce qu'évidemment, si je prends une série, par exemple, la série des jeux Assassin's Creed, Assassin's Creed va se dérouler évidemment dans un cadre fictif avec des personnages qui, a priori, n'existent pas, mais qui va quand même côtoyer des personnages qui, eux, ont réellement existé. Donc, moi, c'est l'exercice que je tente de faire aussi sur ma chaîne Twitch, par exemple, de jouer à justement les jeux de la série Assassin's Creed et d'essayer de relever relever qu'est-ce qui est de la fiction, qu'est-ce qui est de la réalité historique et quelle entorse peut-être qu'ils auraient pu faire finalement, quel élément il aurait pu sur lequel il aurait pu peut-être tourner les coins ronds ou qui aurait pu atténuer finalement pour le bien du scénario, parce que ça reste quand même un médium de divertissement. Ça n'égalera jamais finalement un article scientifique ou une monographie ou un cours donné dans une salle de classe. Donc on peut pas y aller vraiment en profondeur et dans les détails, mais on est capable à tout le moins de susciter l'intérêt pour l'histoire, puis c'est un peu le potentiel en fait de ce médium-là que comme Twitch là finalement.
Mais est-ce que je comprends que vous avez été vraiment approché par des concepteurs de jeux pour rendre leur produit un peu plus conforme à l'histoire réelle?
C'est sûr que je... non, il s'agit en fait d'une initiative personnelle parce que Twitch, un peu à l'image de YouTube, c'est les gens qui, de leur propre initiative, se créent un compte et vont diffuser du contenu en fait sur la plateforme. À la différence, comme je le disais tantôt, que c'est vraiment des lives et moi, je les fais vraiment de ma propre initiative et je fais seulement que finalement insérer mon regard d'historien dans le jeu vidéo pour non seulement rendre l'apprentissage un peu plus ludique, mais en même temps servir un peu de courroie de transmission entre le domaine de l'histoire et les jeunes et les gens de la société en général là, qui fréquentent la plateforme, en fin de compte.
C'est-tu payant? Il a fait bien de l'argent avec ça?
Pas assez pour en vivre, parce que je vous dirais qu'au Québec, la scène sur Twitch est encore assez embryonnaire, assez récente. YouTube, maintenant au Québec, tout le monde connaît ça. Il y a des diffuseurs qui effectivement sont capables de retirer un revenu assez suffisant pour pouvoir bien en vivre. Au Québec, vu que la communauté est encore très très restreinte, je vous dirais que même les diffuseurs les plus connus, j'ai qu'à penser par exemple à Denis Talbot, à Bob le chef de l'anarchie culinaire aussi qui sont là-dessus, qui ont leur propre chaîne, tirent quand même certains revenus, c'est mon cas également, mais c'est des revenus qu'on doit mélanger avec d'autres sources de revenus, comme moi, par exemple, j'ai un travail à temps plein. Je travaille comme archiviste à la commission scolaire des Phares à Rimouski. Puis c'est ça, j'ai une job à temps plein, mais je fais ça à côté comme projet sideline, si on veut.
OK, c'est un projet, mais c'est pas, on peut pas vivre de ça. Il n'y a pas assez, le marché pas encore assez évolué pour permettre...
Pas encore, du moins, au Québec. C'est sûr qu'aux États-Unis, il y en a qui vivent de manière très aisée de ça, je vous dirais, en France également. Mais au Québec, le marché est en pleine évolution, justement. Donc, ça va prendre encore un certain temps, d'après moi, avant qu'on se rende là. Mais c'est quand même un marché là, qui évolue bien pour l'instant.
Est-ce qu'on peut imaginer un monde où les enfants, au lieu d'aller à l'école, joueraient puis apprendraient?
Je vous dirais que je souhaite pas forcément parce que, comme je vous le disais tantôt, y a rien qui égale finalement un bon professeur passionné avec une salle de classe, avec des bons outils pédagogiques. Et moi, je pense que c'est quelque chose qui, non seulement ce modèle-là dure depuis l'Antiquité, mais je pense que c'est un modèle qui va perdurer à travers le temps. Parce qu'on apprend jamais mieux finalement qu'avec un professeur qui va nous encadrer, qui va nous montrer étape par étape le cheminement d'une matière. Et moi, je pense qu'effectivement, c'est souhaitable que le divertissement prenne plus de place comme outil pédagogique, mais pas forcément qu'il remplace les salles de classe. C'est un peu la mission que je me suis donnée, en fait, sur Twitch, c'est de servir de courroie de transmission, d'incitateur, en fait, aux gens à voir l'histoire sous un autre regard et ensuite à s'intéresser à ça, puis pour se renseigner un peu plus, aller voir, justement, des documentaires, aller lire des livres, consulter des articles et ce genre de choses-là. Donc, oui, le médium de divertissement, tant qu'à moi, doit évoluer pour aider, justement, la pédagogie des différentes matières, comme l'histoire. Mais selon moi, ça doit pas les remplacer, par contre.
OK, puis ça... C'est peut-être aussi ceux qui ont décroché justement pour qu'il y ait un minimum de connaissances ou que ça leur donne le goût d'en apprendre plus puis de raccrocher.
Oui, effectivement, ça peut aider parce que si on pense par exemple à des élèves qui ont des difficultés de concentration, qui ont des difficultés d'apprentissage, c'est le genre d'élève effectivement qu'un simple cours magistral avec quelqu'un qui parle en avant de la classe sera peut-être pas suffisant pour vraiment déclencher l'intérêt. Va falloir les interpeller, va falloir amener une certaine composante de jeu à travers tout ça. Donc effectivement, pour atteindre des élèves qui ont peut-être un peu plus de difficultés d'apprentissage, ça pourrait être une bonne méthode à développer en effet.
Okay. Là, j'ai un auditeur, William, qui m'écrit qu'il y a plusieurs personnes au Québec qui vivent de YouTube, là, mais pas sur Twitch. Là. C'est YouTube, il y a déjà des gens qui peuvent se permettre de vivre grâce à ça. Il me donne un paquet de noms, là. Il me dit qu'au niveau de Twitch, on n'est pas encore effectivement rendu là. La masse critique est pas assez importante, là.
Oui, effectivement. Donc, je voudrais la plupart des diffuseurs les plus populaires sur Twitch retirent quand même certains revenus de ça, mais effectivement, on peut pas vivre seulement que de Twitch. Il faut avoir d'autres sources de revenus à côté.
OK. Ben François Lafont, étudiant en maîtrise en histoire, qui fait découvrir l'histoire par les jeux vidéo. Merci beaucoup de nous avoir parlé aujourd'hui.
Merci, M. Duhaime, de m'avoir invité.
Au revoir.